Personnage extraordinaire de l'œuvre de Giono pour Jean-Louis Caribou, c'est tout de suite et c'est notre quatrième portrait. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour Dil. Voilà, mais dans la série des personnages extraordinaires dans l'œuvre de Jean Giono, aujourd'hui j'ai prévu de vous lire un petit texte intitulé « Marie aime » et qui est extrait des récits inachevés. Alors c'est une histoire qui se déroule dans l'Auvar, aux limites de la Haute-Provence, sur un plateau de truffières. Et là vivent deux personnages. Il y a Marie M, elle-même, que l'on va évoquer assez longuement. C'est la fille d'Adolphe. Adolphe, il a une passion absolument insolite. Il a une passion pour les bottes. Il achète des bottes, il contemple ses bottes. On va en lire quelques extraits. Finalement, il passe l'arme à gauche. Et Marie-M, orpheline, vit toute seule dans ce village qui est un village fantôme. Pas toute seule, parce qu'il y a également un ancien militaire, très bizarre, qui vit dans les ruines d'un château qu'il a acheté. Et on va voir ce qui se passe entre ces deux personnages qui ne s'aiment pas, qui ne se détestent pas, qui s'ignorent. Mais enfin, bon, il va se passer quand même des choses entre eux et on va le voir tout de suite. Marie-M, elle voit dans les pages en couleur du catalogue des armes et cycles de Saint-Étienne une carabine Remington à répétition pour la grande chasse. Elle l'achète. Elle peut se le permettre. 300 chênes truffiers qu'elle possède sur le plateau, sauvages à perte de vue, lui donnent 800 000 anciens francs de rente. Elle n'en dépense pas 50 000. Le reste va dans le toupin. Elle vit de fromage de chèvre qu'elle fait elle-même, d'olives qu'elle va glaner à 20 km de chez elle sur les terrasses du Var. Elle use les robes et les caracos de sa mère, morte sous Loubet, et les bottes de son père qui s'est ruiné en bottes. Il en était même célèbre. À l'époque de l'exposition coloniale, Adolphe M. avait la plus belle collection de bottes de la région, peut-être de France, peut-être du monde. Il s'en faisait faire une paire ou deux chaque fois qu'il rencontrait un cordonnier, et il la rencontrait souvent, car il les cherchait. Il voyageait même uniquement dans ce but. Il avait toujours sur lui de quoi se faire prendre mesure. Beauté dès le matin, il s'asseyait dans un fauteuil et il ne bougeait plus. Lire ? Bon, quelquefois, mais surtout regarder ses bottes et y réfléchir. Il trouva dans ses réflexions le secret d'une poudre qui faisait craquer le cuir. Il aimait par-dessus tout être accompagné de ces craquements qui faisaient riche. Sans l'être tout à fait, il était à son aise. Son domaine marchait seul. À force de marcher seul, il ne marcha plus. Il vendit ses vignes du Var, ses pâturages maigres du Cangers, la maison d'hiver de Toulon et il confina sa femme, Marie, qui avait 16 ans, et lui-même à Saint-Julien, qui est un rocher solitaire dans des rochers solitaires. Ce fut pour lui une époque royale. Il s'était ainsi rapproché d'Ops, où un petit artisan travaillait divinement le cuir, cantonné à côté, à Barjol, dans des eaux tout à fait idoines. Madame M. mourut d'une indigestion de rocher. Elle en voyait du matin au soir, du soir au matin, elle ne voyait que ça. À part, bien entendu, mais ça n'était pas plus réjouissant, sa fille qui montait rapidement en graine sous l'influence des cours fort creux et fort profonds, son garde-manger plein de fourmis et son mari qui faisait à longueur de journée craquer ses bottes dans d'interminables couloirs. Il n'y avait pas de truffes à l'époque, ou plus exactement, c'était le secret du métayer, chose étrange. Adolphe M. n'aimait pas que ses bottes. Il surprit son monde. Après la mort de sa femme, il a attendu juste le temps convenable, 6 jours, et avec beaucoup d'élégance, sans tambour ni trompette, sans maladie, sans déranger personne, il passa l'arme à gauche. On le trouva raide comme un piquet. Son enterrement fut suivi à travers bois par une foule de fermiers, de paysans, de journaliers, d'artisans et naturellement de cordonniers. dont certains étaient venus de fort loin, à pied, ayant volontiers perdu leur journée pour accompagner les restes de ce personnage qu'ils avaient intéressé au plus haut point avec ses bottes. On avait imaginé monts et merveilles à propos de cette manie. Le soir même de la cérémonie, le métayer, en mal de tendresse, avoua le secret des truffes à l'orpheline. Ce n'était pas une orpheline à la Charles Mérouvel, sèche, dure, d'une maigreur de chat romain, masculine au point d'avoir de la moustache, rien d'autre, absolument rien. Le métayer fut liquidé avant même d'avoir su de quel côté venait le vent. Elle liquida pareillement voisin, relatif, le plus proche était à 20 km, et client, et elle se mit à Lyon cru. 50 ans après, elle s'achète une Remington culbutée à culasse renforcée, magasin à levier, capable d'expédier à 4 km un petit boulet explosif de la grosseur du pouce. Ses yeux sont blancs. Pour des raisons vitales, elle n'a plus que soi-même pour objet. Un détail toutefois. À 60 ans, elle a comme une fringale. Elle n'a plus forme humaine. Elle ressemble à un cep de vigne. Elle continue à user la collection de bottes de son père et les manches à gigot de sa mère. Elle fait alors plus de 1000 km à pied dans tous les sens pour renouer avec ses anciens voisins. Depuis 30 ans, ceux-là sont morts ou ruinés ou enrichis ou partis à la ville. Elle en trouve d'autres qui, au début, ont peur de ce fantôme, puis s'habituent. On en voit de toutes sortes dans ce pays. D'ailleurs, elle ne fait pas de mal. Elle s'assoit tout simplement à côté des femmes qui attendent ou qui donnent le sein. Elle les regarde, puis elle propose 20 francs pour avoir le droit de toucher le ventre ou le sein. Elle a la malice de montrer ses 20 francs. Ils sont en or. C'est de l'argent vite gagné, on accepte. Au surplus, elle a la main douce et semble en extase. Elle dépense une fortune dans ses attouchements délicats. Elle en devient célèbre, elle aussi. Souvent, on lui fait signe. « Venez donc, mademoiselle Marie, la belle fille l'est de 6 mois. » De l'or, vous pensez? Un beau jour, elle refuse. C'est fini. Cette fringale est passée. Maintenant, la voilà avec sa carabine. Le courrier sonne du klaxon au carrefour. Elle descend de son rocher. Quand elle arrive en bas, le car est parti, mais il a laissé une caisse au bord de la route. Elle est si impatiente d'entrer en possession qu'avec une grosse pierre, elle fait sauter les clous. C'est une belle arme, lourde, mais certainement efficace. Le soir venu, après une journée de contemplation, elle remplit le magasin de cartouches, fait marcher le levier et tire un coup de fusil dans les étoiles. Le recul la met sur le cul. Elle trouve ça épatant. Elle recommence, le fusil recommence, et c'est la première nuit. Il faut dire que Marie est seule à Saint-Julien, sauf, de l'autre côté de l'église, en ruine, un vieux croumir, sale comme un peigne, riche comme Crésus, il possède lui aussi des truffières sur le plateau, Alexis dit le Six. En 1903, il a acheté les restes de ce qu'on appelle le château. Depuis, il y campe. On ne le voit que quand il va chercher sa provision de pétrole à Montmeillan. La touque pèse 20 kilos, alors forcément, avec ce poids sur ses épaules, il reste assez longtemps par les chemins pour être visible. Le reste du temps, et notamment quand il fait sa récolte de truffes, c'est un renard. Que dis-je, c'est un éclair. On ne le voit pas passer, il a, on ne sait pas, 70, 80 ans. Marie habite la maison bourgeoise. Elle a des stucs 18e au-dessus de ses portes et de ses plafonds. Du boudoir de sa mère, une pièce qui a beaucoup servi à bouder, elle voit la lampe de Six. C'est tout. Elle s'éclaire à la bougie. Quand Six va à ses truffières, il descend du rocher par le sentier du Nord qui regarde de très loin la vallée de la Durance. Quand Marie va à ses truffières, elle prend le sentier du sud qui regarde, de très loin aussi, les solitudes du Var. Une fois dans la forêt d'Yeuse, Six et Marie disparaissent. La solitude y fait prendre des vessies pour des lanternes. On s'y habitue. Que le monde soit blanc ou noir, c'est toujours le monde. Si on y ajoute de soi-même une chose qui n'y est pas, à l'instant même, elle y est. Nos deux solitaires font ainsi leur vie. Ils ne s'aiment pas. Ils ne se détestent pas, ils sont sur terre, à la même époque, c'est tout. Un soir, Marie vise la lampe de Six et expédie dans sa fenêtre un de ces petits boulets explosifs qui fait tout voler en éclats, vitres, lampes et un bon morceau de mur en face. Ébahissement de Six. Il se demande si c'est du lard ou du cochon. Il pense à tout avant de penser à Marie. Il lui faut 5 minutes, mais il y vient. « Fille d'Adolphe, dit-il, putain de vache, garce enturbané. » C'est tout dire, il a servi dans les zouaves à Tunis. Il est quand même un peu surpris. Les choses en restent là, il ne dit rien. Si Marie a tiré, se dit-il, elle avait ses raisons. Il va à Montmeillan, par le sentier du Nord, s'acheter une autre lampe pigeon. Le soir même, la pigeon s'envole avec fracas et en même temps, le tuyau de son poêle et au moins 20 kilos de plâtras dégringolent du plafond car Marie, cette fois, a tiré un peu de biais. Dans le feu du plaisir, elle a mal épaulé, le fusil a sauté de ses mains, la crosse lui a à moitié démoli la mâchoire. Sur le moment, elle a eu peur de s'être cassé quelque chose, mais non, ça fonctionne. D'ailleurs, elle n'a plus de dents. « Ah !» se dit Six, « il ne faudrait pas que ça dure. » Il n'est pas en colère, il a simplement un problème à résoudre. Il est à 4 pattes sous la table. À 80 ans, c'est quand même ridicule. Les dégâts, il s'en fout. Son château est en ruine depuis 1789, mais si chaque soir il faut faire un plat ventre, c'est pas rigolo. Et puis, il y a les lampes pigeons. À une par soir, ça fait combien? Il calcule. Et combien de kilomètres pour aller l'acheter à Montmeillan chaque jour? Non, la fille d'Adolphe, merde, on va y apprendre à vivre. La fille d'Adolphe, puisque fille d'Adolphe il y a, se nourrit d'un bout de l'an à l'autre de haricots secs. Elle en a toujours 100 kilos dans la resserre. Elle en fait tremper chaque soir pour le lendemain dans une petite jarre sur le balcon de sa salle à manger. Voilà la jarre qui vole en éclats, ainsi que la porte-fenêtre. Marie est estomaquée. La balle a sifflé près de ses oreilles. Et ce n'est pas tout. Elle avait une suspension en opaline qu'elle n'allumait pas, bien entendu, puisqu'elle n'est pas partisane du pétrole. Elle n'a plus de suspension en opaline. Volatilisée, la suspension. Il n'en reste qu'une chaînette de cuivre. La photographie agrandie de son père a également disparu. À sa place, il y a un trou dans le mur. Six a l'air de posséder également un fameux instrument. « Sacré vieux cochon !» se dit la fille d'Adolphe, à 4 pattes sur la table, à son tour. Il a compris le coup. « Veux-tu parier qu'il s'achetait aussi une Remington ?»« Juste, Auguste. » Il s'est acheté la même sorte de pétoir ou approchant chez l'armurier de D. Et d'où a-t-il tiré pour frapper dans cette salle à manger qui est masquée par l'épaule de l'église ? Ah, probablement de sa tour. Il est fou de monter là-haut à son âge. Il a bien 5 à 6 ans de plus qu'elle. Elle profite des dernières lueurs du jour pour monter à son grenier, passer par une lucarne et, après un rétablissement, elle est sur les toits. C'est une fameuse position. Elle commande la salle des chevaliers, à moitié écroulée, ouverte en plein vent, où Six a émigré. Marie se cale contre une cheminée pour ne pas être renversée par le recul. Ici, ça coûterait chaud. Elle épaule soigneusement, elle a encore la mâchoire bleue, et elle envoie son petit boulet. Elle l'entend faire le diable 4 là-bas, et miauler, et rebondir contre les murs. Comme elle ne peut pas se risquer à repasser par la lucarne dans l'obscurité, elle canarde toute la nuit. C'est un vrai bombardement. La cheminée lui chauffe le dos, elle a trouvé le coup pour épauler sans dommage. Le roi n'est pas son cousin. D'après les bruits, elle a démoli des chaudrons et fait dégringoler des tas de choses retentissantes. Le lendemain, riposte de Six. Il est allé se jucher on ne sait où. Ce château est plein de ressources. Chez la fille d'Adolphe, tout y passe. Le fauteuil où son père rêvait, le guéridon de sa mère, un placard bourré de verreries, des compotiers en cristal, des coupes où le collectionneur de bottes buvait son champagne, des flacons, des pots, des marmites, jusqu'à des douilles d'obus de 14 qui servaient de pots à chardon. Et bien entendu, les glaces du salon, les candélabres, une bonbonne d'huile, sans compter les stucs et les murs labourés. Marie a passé la nuit à plat ventre. À différentes reprises même, elle a dû ramper pour changer de place. « Attends, attends !» dit-elle. Mais le soir, comme elle essaye de repasser par sa lucarne, un bout de ferraille vient lui miauler sous le nez. Il est sur ses gardes, le vieux cochon. Eh bien, il va voir. Elle ne sait pas comment elle se débrouille, mais à force de gigoter, de se faufiler par des trous d'aiguille et de glisser sur son cul, elle finit par atterrir sur le restant de ce qui était jadis un clocher. Là, elle domine la situation. Et en avant, la musique, c'est une vraie danse cette fois. Elle a 50 cartouches, elle a pris le coup pour manœuvrer le levier et à l'épaule, comme un Suisse, elle tire un tel feu d'artifice qu'à un moment donné, elle entend Six qui jure comme un diable. Oh, que ça devient intéressant. « Fille d'Adolphe, se dit Six, cette voix, tu vas passer à la casserole. » Et il insulte en lui-même pendant au moins 5 heures, puis encore 5 après avoir donné à ses lapins, puis encore 2 après avoir cassé la croûte avec un bout de fromage, tout le jour. Tout y défile, depuis les différentes sortes de fumier jusqu'à un sacré guéridon qui semble ne rien vouloir dire, mais signifie beaucoup pour Six qui, pendant toute sa jeunesse, a été terrifié par un guéridon que sa mère couvait du regard et faisait respecter à coups de taloche. Les guéridons ont joué un grand rôle dans ces déserts vers 1900-1905. Marie ne passe pas tout à fait à la casserole, mais elle en prend un bon coup. Le vieux cochon s'est placé de telle façon, allez savoir comment, qu'il peut tirer à la fois dans la souillarde et dans le salon. La souillarde ne lui donne prise que par une lucarne, mais on ne peut pas imaginer le dégât qu'il fait rien que par cette petite ouverture. Et dans le vif du sujet, si on peut dire, les pots de graisse, les conserves de cerises, la jarre d'huile, les bottes de miel, les sacs de farine, la provision de haricots, de lentilles, de pois chiches, un jambon déchiqueté comme par un loup, 2 bouteilles de Cinzano, un petit fût de Malaga, un bocal où macère le pastis, tout valse. « Ah, mais non, non, non !» dit Marie, « sans compter le salon, il faut le voir !» On a beau être dans un désert, il y a toujours des oreilles qui écoutent. Le silence porte le bruit comme un ostensoir. Des bousquetiers qui font du charbon de bois dans la forêt s'inquiètent de ces pétarades nocturnes qui ne font que croître et embellir. Un beau matin, voilà les gendarmes. « Que se passe-t-il ici ?»« Rien. » Et des yeux candides. Il ne faut pas être grand clair pour voir les dégâts. C'est le gros brigadier de S, celui qui a 11 enfants. Il ne comprend pas. Aussi bien chez la fille d'Adolphe que chez Six, il ne sait que répéter « à votre âge » et il regarde le cataclysme. Si on lui disait les raisons de ce combat, lui qui a vécu toute sa vie sous les drapeaux et les langes étendues dans la cuisine, il en ferait une maladie. Il connaît cependant assez son plateau. Il est arrivé à S il y a 12 ans, célibataire. Aujourd'hui, il a 11 enfants et S est déjà un peu en dehors du désert. Il sait que son « à votre âge » est un cataclysme sur une jambe de bois. Il faudrait une loi. Il la cherche, il ne la trouve pas, il invente et il saisit les fusils. Évidemment, il reste pas mal de choses à ces deux zèbres. Le couteau, la morora, même le silex taillé. Mais, qui faire? D'ailleurs, maintenant, Marie a envie d'un clairon.
Jean-Louis Caribou, merci pour ce portrait encore de personnage extraordinaire de l'œuvre de Jean Genet. On se retrouve mercredi 9 août à 9h30 sur cette même antenne pour parler de Bobby.
Oui, alors Bobby, c'est un personnage, le personnage principal d'un roman bien connu de Jean Giono, Que ma je demeure. Bobby est un errant, un poète qui, une nuit, traverse un plateau de Haute-Provence où vivent 5 familles de paysans, des paysans qui vivent au quotidien une vie domestique un peu triste, terne, monotone. Chaque année, ils font la même chose, la même saison, et la nuit... génère l'ennui, il n'y a plus d'espérance. Et puis une nuit, Bobby rencontre un de ses paysans en train de labourer, et la rencontre va déterminé, quelque chose d'extraordinaire. Bobby va s'installer sur le plateau et va apprendre à ses familles de paysans à retrouver la joie. Bobby est un poète, c'est un professeur d'espérance, et il va leur apprendre à déguster, à partager ce que Giono appelait les vraies richesses. Donc c'est vraiment un personnage extraordinaire, pas du tout dans la même veine que Marie-M, dont on vient de lire un petit extrait, mais c'est un poète d'espérance, dont nous verrons ça la prochaine fois.
Merci, au revoir.